Chers amis des cellules, bonjour. Je vous propose de réfléchir aujourd'hui à partir de la deuxième lecture de dimanche prochain, qui est le début de l'épître de saint Paul aux Romains. Alors que nous nous apprêtons à contempler la naissance du Sauveur, du Fils de Dieu qui s'est fait chair, nous serons dans ce début de l'épître aux Romains tout particulièrement attentifs à l'expression « bien-aimé de Dieu ». Lisons le texte. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils, qui selon la chair est né de la descendance de David, et selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Fin de la lecture. Saint Paul appelle donc les chrétiens qui sont à Rome « bien-aimés de Dieu ». C'est une expression à laquelle nous sommes peut-être habitués, mais qui pourtant est loin d'être évidente. En effet, dans l'Antiquité, autant il est normal que les hommes aiment les dieux, en effet les dieux sont une perfection, donc cette perfection est digne d'amour, autant l'inverse, que les hommes soient aimés de Dieu, est une affirmation qui paraît incongrue. Lorsque l'on regarde les traditions d'Égypte, de Babylonie, de Perse, d'Assyrie, de Grèce, on se rend compte que les hommes aiment les dieux, mais pas que Dieu aime les hommes. La différence de perfection est telle qu'on ne voit pas comment un homme serait digne de l'amour d'un dieu. Dans la mythologie grecque, il y a de nombreuses relations sexuelles entre des dieux et des hommes, mais cela relève de la pulsion érotique et non pas de l'amour véritable. Il y a même une tragédie sur ce thème d'Euripide, Artémis et Hippolyte, où Hippolyte, un homme, est amoureux d'Artémis et Artémis semble s'intéresser à lui. Mais voilà que, blessé à mort, Hippolyte demande que Artémis reste à ses côtés pour ses derniers instants, et Artémis s'en va en disant « mais il n'est pas permis à un dieu d'aimer un mortel ». C'est en Israël qu'intervient une révolution dans l'histoire des religions, au 8e siècle avant la naissance de Jésus, avec le prophète Osée. C'est lui qui introduit pour la première fois très explicitement ce lien d'amour entre Dieu et son peuple, avec deux images, à la fois celle du Fils, si on pense au chapitre 11, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et d'Égypte, j'appelais mon Fils. » Et l'image des fiançailles, au chapitre 2, verset 21, « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde, je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu connaîtras le Seigneur. » Voilà que dans cette image, Israël est comparé à une jeune fille que le Seigneur prend pour épouse, qu'il aime comme un époux aime son épouse. C'est une révolution dans l'histoire des religions. Dieu aime son peuple. Cependant, cet amour de Dieu dont on parle a pour objet un peuple, son peuple. Or, saint Paul, dans l'Épître aux Romains, va parler des bien-aimés de Dieu. Cette expression désigne désormais personnellement chacun des baptisés. Comment ce sceau a-t-il pu se produire? Par l'incarnation du Verbe de Dieu, parce que le Fils du Père s'est fait chair. Vous vous souvenez de ce que nous entendions lors du baptême du Christ dans le Jourdain? Une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » La grande nouveauté venait de ce que la reconnaissance du Fils bien-aimé se faisait jusque dans son humanité. Ce n'est pas malgré son humanité, c'est jusque dans son humanité qu'il est reconnu comme le Fils bien-aimé du Père, dans lequel il met toute sa faveur, toute sa bienveillance. Avec Jésus, le Fils bien-aimé du Père qui s'est fait chair, nous avons une humanité qui est digne de l'amour de Dieu, à la fois digne d'être aimé par Dieu et aussi capable de répondre dignement à l'amour du Père. Car lorsque il est dit « Tu es mon Fils bien-aimé », ce n'est plus une image, c'est une réalité. Ce que j'appelle une image, c'est quand on dit, par exemple, « J'aime un tableau », et si Léonard de Vinci peut dire « J'aime la Joconde » et peut dire « C'est mon chef-d'œuvre », ça ne reste qu'un tableau. Ce n'est pas la même chose que l'amour d'un père pour son fils. Or, quand le Père s'adresse à Jésus dans son humanité et dit « Tu es mon Fils bien-aimé », ce n'est pas une analogie, c'est une réalité. Il est bien le Fils bien-aimé, aimé jusqu'au bout de son humanité. À partir de là, la révélation progresse encore, et saint Paul nous en donne une clé à travers le début de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 1, les versets 4 à 6. Ces versets révèlent le dessein créateur de Dieu quant à l'humanité. C'est ainsi que le Père nous a élus en lui Jésus, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui, le Père, des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé, c'est-à-dire Jésus. Nous recevons là quelque chose d'inouï. Nous recevons là la révélation que, dès avant la fondation du monde, il y a un choix de Dieu pour faire de nous ses fils adoptifs en Jésus-Christ. Dieu n'a pas voulu que nous fussions seulement des créatures, il a voulu que, comme créatures, nous soyons élevés à la dignité de fils adoptifs du Père, pour devenir les bien-aimés du Père. Et cela, par l'union à Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en communion à Jésus-Christ, il nous serait partagé l'amour du Père pour le Fils. À travers le baptême, il y a une union toute particulière qui est réalisée avec l'humanité du Christ et qui fait que le Père, posant les yeux sur nous, y reconnaît son Fils. Quand il pose les yeux sur nous, il nous voit comme son Fils. Il nous voit en son Fils. Notre être personnel, est image de son Fils. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'une autre identité qui se substituerait à la nôtre. Ce n'est pas un corps étranger qui s'emparerait de notre être et le transformerait en quelque chose d'autre où finalement nous ne serions plus nous-mêmes. L'union au Christ permet en fait l'accomplissement de notre être, l'accomplissement de notre humanité. Je prendrai une image pour l'évoquer. Prenez une ampoule électrique, à la base c'est du verre, un filament et puis c'est tout. Mais permettez-lui d'être traversé par l'électricité, vous vous rendez compte que cette ampoule électrique donne de la lumière. Toute seule, elle n'en donnait pas. Mais voilà que, unie au courant électrique, on découvre qu'elle est capable de donner de la lumière. Elle donne, je dirais, elle accomplit ce pour quoi elle était faite et qui n'était pas forcément visible dès le départ et que tout seul, elle ne pouvait pas faire. Mais c'est bien l'ampoule qui brille une fois qu'elle est traversée par le courant. Et c'est bien notre humanité qui brille une fois qu'elle est unie à l'humanité du Christ. Comme le disait saint Irénée, telle est la raison pour laquelle le Verbe s'est fait homme et le Fils de Dieu s'est fait Fils de l'homme. C'est pour que l'homme, en entrant en communion avec le Verbe et en recevant ainsi la filiation divine, devienne Fils de Dieu. En cette fin du temps de l'Avent, alors que nous nous apprêtons à contempler justement l'humanité du Christ qui devient visible à nos yeux par sa naissance, par la nativité, ça y est, il est mis au monde, nous sommes appelés à redécouvrir, à reprendre possession de cette bénédiction de Dieu, de cette élection dans le Christ, du fait que quand Dieu pose son regard sur notre humanité, unie à l'humanité du Christ par le baptême, il voit en nous son Fils, nous sommes une image de son Fils bien-aimé, et nous sommes en lui bien-aimés, comme l'ampoule reliée à l'électricité devient brillante, resplendissante de lumière. Telle est notre origine, et du coup telle est aussi notre vocation à la sainteté. C'est pour cela que saint Paul, à la fin de la lecture, dit ceci aux baptisés de Rome, « Vous qui êtes appelés à être saints, mais Dieu seul est saint, en effet, mais nous sommes appelés à devenir saints par union au sein de Dieu, qui est le Fils de Dieu, celui qui s'est fait chair. » Nous devons reprendre possession de notre origine et de notre vocation parce qu'elle a été blessée par le péché originel. Rappelez-vous du chapitre 3 de la Genèse où, après le péché, Adam et Ève se cachent dans le jardin. Ils se cachent parce qu'ils ont peur, ils se cachent parce qu'ils ont honte, honte de ce qu'ils pensent être, honte de ce qu'ils croient être la vérité de leur être, parce qu'ils ont quitté la lumière de la grâce de Dieu. Comme l'ampoule qui aurait perdu l'idée même d'être traversée par le courant, se demande à quoi elle peut bien servir, elle qui ne produit aucune lumière. Cette peur et cette honte peuvent nous faire haïr notre condition humaine. Cette peur et cette honte peuvent nous maintenir dans une tristesse immense lorsque nous contemplons notre état de créature. Lorsque nous oublions que la créature est faite pour la rencontre de Dieu, pour la communion avec Dieu. Et c'est encore pour cela que Paul donne ceci de la part de Dieu. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. La grâce, c'est le secours de l'Esprit-Saint. C'est lui qui a la capacité de produire cette union avec Dieu, de nous rendre même participants de la nature divine. La paix, par la miséricorde au-delà du péché, la paix dans nos relations avec les autres, la paix jusque dans la relation avec nous-mêmes, en redécouvrant notre condition de créature, appelée à être sainte, appelée à vivre en Dieu, à vivre de Dieu, à vivre avec Dieu, à être fils bien-aimé du Père. Nous sommes appelés à découvrir ou à redécouvrir le trésor de notre vocation, le trésor du dessein de Dieu sur nous, le trésor de la bénédiction et de l'amour que Dieu a déposé sur nous, a voulu pour nous, lui qui nous a élus en son Fils bien-aimé. Nous sommes appelés à demander cette grâce de posséder véritablement cette révélation de notre vocation, parce qu'alors elle est un rocher, elle est une forteresse pour affronter, j'allais dire, toutes les épreuves de notre vie, sûre de cette dignité et de cette bonté de notre être et de notre vocation. Quand bien même les affres de la vie me dénigrent, je sais désormais que je suis fils bien-aimé du Père. La société ne me donne pas toute la reconnaissance que je voudrais, je suis pourtant bien-aimé du Père. Mon corps n'a pas la force et la santé que j'imaginerais, et pourtant, je suis bien-aimé du Père. Je m'interroge sur ma capacité à transformer le monde autour de moi, et pourtant, je suis déjà bien-aimé du Père. La contemplation de la vie du Christ devient alors un lieu d'action de grâce et de paix, car sa vie me parle de ma vie, ouvrant un avenir qu'on n'aurait pas osé imaginer. Je vous souhaite de bons échanges.